الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Durant le dernier cours, nous avions parlé des causes et dans la personne à trouver son plus grand plaisir dans la prière, trouvant son repos, tout ce qui permet à la personne de trouver son repos dans la salat et d'atteindre au plus haut niveau de l'amour pour cette prière. Ce qu'on appelle qurratul ayn. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous a cité 6 points à unir afin de pouvoir accéder à ces nobles rangs. Hier, nous avons parlé du premier point, al-ikhlas, le fait de ne rechercher à travers cette prière que l'agrément d'Allah, que la récompense d'Allah, que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, al-sidq wa al-nusr, le fait de se décharger de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, de toute pensée autre que la recherche de la perfection dans cette prière. Donc tu entres dans cette prière et tu ne t'occupes de rien d'autre. Lorsque tu dis Allahu Akbar avec takbiratul ihram, tu concrétises cette parole à travers ta prière. Tu dis Allah est le plus grand. Et du fait qu'Allah est Akbar, c'est le plus grand, tu ne t'occupes de rien d'autre dans ta salat, si ce n'est la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette salat. Et en fonction de la concentration que tu auras dans cette prière, tu te verras récompensé et tu auras goût à cette salat. Le troisième point, al-mutaba'a wal-iqtida, le fait de faire cette prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et tu ne délaisses pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tel imam ou telle personne ou tel chiqh, mais tu t'efforces de prier exactement comme cela nous a été transmis dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus ta prière est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu te vas récompenser. Et elle doit être en conformité extérieurement mais aussi intérieurement. C'est-à-dire que tu dois prier avec concentration, avec recueillement, humilité, amour, crainte et espoir. Et aujourd'hui, on entre dans Al-Mashhadu Al-Rabi'a. Donc le quatrième point, Mashhadu Al-Ihsan. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى المشهد الرابع مشهد الإحسان وهو مشهد طيب on avait déjà lu ce point là نعم نعم وهو مشهد المراقبة وهو يعبد الله كأنه يراه وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة وينزل الأمر من عنده ويسعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, on dit que le quatrième état, donc à voir pour pouvoir trouver le plus grand plaisir, le plus grand bonheur et le plus grand repos dans la prière, est l'excellence dans l'accomplissement de cette salat. Exceller dans l'accomplissement de la prière. C'est l'attitude qui consiste à se contrôler comme si on ressent qu'Allah nous surveille. C'est d'adorer Allah comme si il nous voyait. Oui. Cet état d'esprit émane d'une foi parfaite en Allah, en ses noms et ses attributs, comme s'il le voyait au-dessus de ses cieux, élevé au-dessus de son trône, ordonnant et interdisant, gérant ce qui est afférent à la création. Tous les ordres qui descendent sur terre viennent de lui, et vers lui ils remontent. Les œuvres des serviteurs lui sont présentées, de même que les âmes lors de leur mort. Le cœur de l'homme doit avoir conscience de tout cela. Il doit avoir à l'esprit ses noms et ses attributs, comme il doit avoir en tête qu'il est celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. Al-Qayyum, le vivant, celui qui entend et voit tout, le puissant, le sage, il ordonne et interdit, il aime et aborde. Rien des œuvres ni des paroles de ses serviteurs ne lui échappe, ni même leur fort intérieur. Bien au contraire, il sait qui est l'auteur d'un regard interdit et ce que contiennent les cœurs. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ici fait référence au hadith de Omar ibn al-Khattab qui est surnommé hadith Jibril. Lorsque Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam akhbirni an al-ihsan, قال an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Donc Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné sur l'islam, sur l'iman, sur l'ihsan. Et As-Sa'ah, il lui a dit, informe-moi de l'excellence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit ou te surveille. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ici, il nous appelle à atteindre ce degré. L'élite des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et plus la personne connaît Allah à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers ses actions, plus lui apparaîtra de sa puissance, de sa grandeur, de sa beauté. Plus il l'aimera, plus il le craindra, plus il espérera de ses grâces, ses faveurs, plus il espérera sa miséricorde et son pardon, plus il aura peur de son châtiment, de sa menace. Et cela, à travers la lecture du Coran et sa méditation, à travers l'étude des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Pourquoi? Car ils connaissent mieux Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme le disaient les plus prédécesseurs, man kana billah a'raf kana minhu akhwaf. Plus la personne connaît Allah, plus elle le craint. Plus la personne connaît Allah et plus elle le craint. Donc tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu entres dans cette salat, comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala, d'un amour tellement intense que c'est comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala élevé au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Comme si tu l'entendais parler, ordonner, interdire et gérer tout ce qui se passe dans sa création. Tu dois avoir une connaissance d'Allah telle que c'est comme si tu le voyais. Si tu n'arrives pas à atteindre ce degré, alors tu dois ressentir qu'Allah te surveille. Qu'Allah sait tout ce que tu fais, entend tout ce que tu dis, voit toutes tes actions. Donc lorsque tu te retrouveras dans cette prière et que tu ressentiras ces sens-là, forcément tu auras la plus grande concentration et tu auras peur de mal faire. Alors du début de ta salat à la fin de ta salat, tu vas t'efforcer de ne pas être distrait. Tu vas t'efforcer pour chaque geste et chaque action, chaque déplacement, d'une action à une autre, tu vas t'efforcer de la faire de la meilleure façon. Tu dois témoigner de tout cela avec ton cœur, car tu ne peux voir Allah Azza wa Jal fi dunya. Allah est élevé au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, en dehors de la création, au-dessus de son trône. Ar-Rahman al-Arsh istawa, a'amintum man fi as-sama, ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib wal-'amal as-salih yarfa'u. Allah, dans de nombreux hadiths, nous enseigne qu'il est en haut, élevé au-dessus de son trône. Et il nous surveille, nous voit, nous entend. Donc celui qui prie en ressentant tout cela dans son cœur, comment est-ce qu'il sera dans sa salat? Et quelle différence y aura-t-il entre lui et une personne qui entre dans sa salat mais ne connaît pas Allah à travers selon ses attributs? Il ne ressent pas qu'Allah le surveille. Il ne ressent pas qu'il va mourir et revenir vers Allah et qu'il sera jugé pour chaque salat, pour chaque défaut dans sa salat, pour chaque manquement, chaque distraction. Et plus la personne connaît Allah à travers ses noms et ses attributs, plus elle l'adorera en fonction des sens compris dans ses noms. Ici, Ibn al-Qayyim nous cite Al-Qayyum, parmi nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, c'est-à-dire celui qui subsiste par lui-même mais sans lequel personne ne peut subsister. Celui qui adore Allah Azza wa Jal à travers ce nom sera qu'il ne peut pas se passer d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, vous êtes dans le besoin d'Allah. Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. Allah n'a pas besoin de nous. Donc tu vas te rappeler que sans cette adoration, tu n'as pas de lien avec Allah. Alors tu vas la parfaire et la prier avec ihsan. Tu te souviens qu'Allah, c'est le hayy, le vivant, celui qui ne meurt jamais. Donc celui qui voit ta prière, celui qui entend tes paroles, celui qui te récompensera. Tu te souviens qu'Allah, c'est al-sami' al-basir, celui qui entend et celui qui voit. Il entend ta récitation, il entend ton tasbih lorsque tu t'inclines et lorsque tu te prosternes. C'est al-basir, il voit tes actions, ta station debout, ton inclinaison, ta prosternation. Azizan hakiman, tu te rappelles qu'Allah, c'est le puissant, c'est le sage, c'est celui qui ordonne et interdit. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla, parmi ses attributs, al-mahabba, yuhib wa yubghid, wal-bughd, il aime et déteste. Quel effet cela aura dans ton cœur? Tu sais qu'Allah aime des choses et en déteste d'autres. Ben, tu vas chercher son agrément en faisant ce qu'il aime. Et tu vas fuir sa colère en t'éloignant de ce qu'il déteste. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla, rien ne lui est caché. Il voit la fourmi noire sur la roche noire dans la nuit ténébreuse. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il nous dit dans le Coran, il n'y a pas une feuille d'un arbre au monde qui tombe sans qu'il ne le sache. Dans le monde entier, chaque arbre qui a des feuilles, lorsqu'une feuille tombe, Allah Azza wa Jalla le sait. Et la multitude de ces feuilles, et la disparité de ces feuilles, et les différents endroits, ne posent aucune gêne à Allah Azza wa Jalla pour les dénombrer et savoir cela. Si ça, chers frères, ce sont les actions des feuilles, les feuilles ne seront ni châtiées ni récompensées. Que dire de tes actions à toi, le fils d'Adam, à toi, la servante, qui allons mourir pour être jugés et revenir vers Allah Azza wa Jalla? Allah sait ce que nous faisons, ce que nous disons. Par la suite, nous serons jugés. Allah Azza wa Jal sait tout, même le regard que tu poses sur une chose interdite en cachette. À l'image d'un groupe de personnes en chemin, et il y a une femme sur le côté. Cet homme ne regarde pas car il est en compagnie de ses amis. Mais lorsque les gens sont distraits, alors il jette un coup d'œil et revient au chemin. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il sait cela. Même le regard que tu as posé rapidement sur une chose interdite, Allah Azza wa Jal le sait. Plus profond que cela, il connaît le contenu des cœurs. Et yawm al-qiyam, ce contenu sera dévoilé au grand jour. Yawm atubal as-sarair. Wa hussila ma fi as-sudur. Le contenu des cœurs sera dévoilé yawm al-qiyam. Al-hasil, celui qui rentre avec cet état dans la salat, tirera le plus grand profit. Tirera le plus grand profit de sa salat et prendra le plus grand plaisir dans sa salat et trouvera le repos et la quiétude dans sa salat. Puis Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: "Wa mashhadul ihsan aslu a'mal al-qulub kulliha, fa innahu yujibu al-haya'a wal-ijlala wat-ta'zima wal-khashyata wal-mahabbata wal-inaba wat-tawakkul wal-khudu'a lillah subhanahu wa dhulla lahu wa yaqta'u al-waswa الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله." في ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit: l'excellence dans l'adoration, l'ihsan, est la base de tous les actes du cœur. C'est-à-dire qu'avec l'ihsan, toutes tes actions du cœur seront bonnes. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: أي بها صلاح أعمال القلوب كلها. Cet état oblige son âme à sublimer son Seigneur et le vénérer, à l'immensifier. Il engendre également la crainte et l'amour, le retour à lui et la confiance en lui, le recueillement et l'humilité. Cet état permet aussi de couper court aux insufflations sataniques, al-waswas, et aux perturbations de l'esprit, et de canaliser son cœur et son attention pour Allah. Donc avec l'ihsan, le fait d'essayer d'adorer Allah comme si tu le voyais, sinon de ressentir qu'il te surveille, te voit et t'entend. Et parmi nous, Allah Azza wa Jal, al-Raqib et al-Shahid, celui qui nous surveille, celui qui est témoin de toutes choses, ben cela va t'aider à réformer ton cœur, à avoir un cœur saint, propre, adouci par le rappel d'Allah Azza wa Jal et qui réagit à l'exhortation. Et de cela va découler les meilleurs états du cœur et la meilleure relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu auras honte de lui. Il te voit dans une situation qu'il n'aime pas ou qu'il t'entende dire une chose qu'il déteste. Tu auras honte de cela. Tu vas le vénérer, l'immensifier. Tu auras peur de lui, car tu le connais. Tu l'aimeras, donc tu chercheras son agrément. Tu te repentiras et reviendras vers lui. Tu accoureras vers son agrément en fuyant son courroux. Tu abandonneras toutes tes affaires auprès de lui. Tu placeras ta confiance en lui. Tu t'humilieras pour lui. Et tu seras tellement occupé à travers ses sens qu'il n'y aura plus de place pour le waswas, les insufflations sataniques. Ainsi ton cœur, toutes les parties de ton cœur seront pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَحَظُّ الْعَبْدِ مِنَ الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ حَظِّهِ مِنْ مَقَامِ الْإِحْسَانِ وَبِحَسَبِهِ تَتَفَاوُتُ الصَّلَاةِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَ صَلَاةِ الرَّجُلَيْنِ من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. L'auteur رحمه الله تعالى nous dit: le serviteur se sentira proche de son Seigneur en fonction du degré d'excellence qu'il aura pu atteindre durant sa prière. Plus tu concrétises les choses citées ici par Ibn Qayyim, plus tu te sentiras proche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta salat. Car le niveau de chaque prière en dépend. Deux hommes peuvent célébrer l'office de la prière et le mérite de l'une sur l'autre peut être aussi grand que la distance séparant le ciel de la terre. Ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous informe que les gens qui sont dans le gré de l'ihsan, de l'excellence, ne sont pas tous au même degré. Même les gens de l'excellence ont différents degrés. Deux personnes accomplissent la même prière dans la même mosquée, derrière le même imam. Les talons collés dans le même rang. Pourtant, la différence entre les deux, donc ils font le même recours, le même sujoud, les deux ont en apparence exactement la même salat. Mais il se peut qu'il y ait une différence entre les deux de degrés semblable à la différence qu'il y a entre le ciel et la terre. Pourquoi ? Dû à maqam al-ihsan, l'état du cœur de cette personne. Il y en a un qui est proche d'Allah, qui ressent qu'Allah le surveille, qui témoigne de ses noms, ses attributs, et qui adore Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs, qui invoque Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs. Ses attributs, Wallahi l'asma ul-husna, Wallahi l'asma ul-husna, fadu'uhu biha. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, المشهد الخامس مشهد الملة وهو يشهد أن منة الله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته وكان هذا من أعظم نعمه علي وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. ابن القيم رحمه الله تعالى من ديل سنكيام إتا reconnaître le bienfait d'Allah sur soi. Reconnaître le bienfait d'Allah sur soi. Allah dit dans le Coran, « وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ » Nous c'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, aucun d'entre nous n'aurait pu se purifier. Mais Allah purifie qu'il veut. Donc tu dois avoir présent dans ton cœur que tout ce que tu fais comme bonne action, et parmi ces bonnes actions, cette salat, c'est un bienfait d'Allah sur toi. C'est pas parce que tu es plus fort, plus intelligent, non. C'est un bienfait d'Allah sur toi. C'est parce qu'Allah a voulu ce bien pour toi. Tu dois ressentir cela en toi, que c'est grâce à Allah. Le cinquième état, c'est de ressentir que toute bonne action n'est que grâce à Allah Azza wa Jal. Ta mise en pratique de cette bonne action, aussi minime soit-elle, n'est qu'une grâce d'Allah Azza wa Jal qui est venu sur toi. Le fait que tu aies pu te tenir debout et qu'il t'ait préparé pour la fête, qu'il t'ait aidé, qu'il t'ait accordé la réussite dans cette adoration, n'est qu'une faveur d'Allah sur ta personne. Et tu n'as aucun mérite dans cette salat que tu es en train d'accomplir. Dans ta salat, tu dois ressentir cela. Tu as réussi à prier salat al-fajr à l'heure au masjid. Fadlun min Allah wa ni'ma. C'est un bienfait d'Allah sur toi et une faveur. Tu as réussi à tenir le tarawih alors que d'autres sont sortis. Fadlun min Allahi wa ni'ma. C'est pas parce que tu es plus fort, c'est une faveur d'Allah sur toi. Tu as réussi à prier de longues prières pendant Ramadan et à jeûner Ramadan. Fadlun min Allah wa ni'ma. C'est une faveur d'Allah et un bienfait sur toi. Ça n'est pas grâce à nous. Ça n'est pas car nous sommes plus forts que les autres, plus intelligents que nous. Non, c'est Allah qui nous a aidés, nous a guidés et nous a facilités et favorisés. C'est ce que tu dois ressentir dans ton cœur. Afin de couper court à la grande maladie qu'on appelle Al-Ujub. Le fait de s'étonner de soi-même. De dire Subhanallah, je suis très intelligent, je suis très fort, j'ai beaucoup de science, j'ai réussi à faire ça et je fais ceci et cela. Il s'agit de reconnaître le bienfait d'Allah qui nous a amené cette situation et nous a donné la possibilité de débuter la prière. Tout comme il nous a permis de mettre notre cœur et notre corps à son service. Lorsque toi, tu adores Allah, tu es au service d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait d'être un esclave et un serviteur d'Allah, c'est un grand bienfait. Ben sache que c'est Allah qui t'a permis de te soumettre à lui. C'est Allah qui t'a permis d'entrer dans la salat et de l'accomplir. Car sans lui, rien de tout cela n'aurait pu se produire. À l'image des compagnons, qui bien que consciencieux dans leurs adorations, disaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, si ce n'était lui, la bonne voie, nous n'aurions emprunté. Ni aumône n'aurions donné, ni n'aurions prié. Donc les compagnons sont les gens les plus pieux après les prophètes. Malgré ça, ils ressentaient ce point. Ils reconnaissaient le bienfait d'Allah azza wa jal sur leur personne. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, donc selon la traduction, il te rappelle leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Ne te vante pas d'être dans l'islam comme si c'était grâce à toi. Non, mais c'est Allah qui t'a gratifié en faisant de toi un musulman monothéiste qui a délaissé le kufr et l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jal pour venir te soumettre à une divinité unique. C'est un bienfait d'Allah sur toi. Tu n'as pas le droit de te vanter auprès d'Allah Azza wa Jal d'être musulman. C'est Allah qui t'a aidé, c'est Allah qui t'a guidé. Le musulman de base et le converti doivent ressentir cela. Ça n'est pas que pour les convertis. Même toi, le musulman de base, tu dois ressentir ce bienfait d'Allah Azza wa Jal sur toi. Regarde ceux qui ont délaissé la salat. Regarde ceux qui sont tombés dans le shirk akbar, qui sont sortis de l'islam. Ils égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal, accomplissent de la sorcellerie. Et d'autres, parmi les natifs de l'islam, d'autres choses. Ils sont sortis de l'islam. Celui qui donne une adoration à autre qu'Allah sort de l'islam. Et toi, Allah t'a maintenu dans l'islam. Fadlun min Allahi Azza wa Jal. Kullu hada min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois remercier Allah Azza wa Jal pour tout cela et te sentir petit et faible. Tu ne dois pas penser que tu mérites tous ces bienfaits. C'est Allah Azza wa Jal qui te les a accordés. Allah est celui qui a fait du musulman un musulman, du prieur un prieur, comme l'a dit l'ami intime Ibrahim al-Khalil. Ibrahim alayhi salam invoquait Allah en ces termes, comme Allah nous le cite dans le Coran. Notre Seigneur, ô notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, des musulmans. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant repentir le miséricordieux. Ibrahim alayhi salam invoquait Allah en lui demandant de faire de lui et de ses enfants et de sa descendance des musulmans. Il avait conscience qu'on ne pouvait être musulman sans l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans l'autre verset, ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat, ainsi qu'une partie de ma descendance, exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ibrahim alayhi salam avait ce mashhad. Il ressentait et avait conscience que personne ne pouvait se tenir debout devant Allah, incliné devant lui, prosterné devant lui, si ce n'est avec l'aide d'Allah. Wallahi, une sajda, une prosternation, tu ne peux l'accomplir si ce n'est avec l'aide d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant à son époque, parlait l'arabe. Il a parlé à l'oreille d'Arabe, de sa famille, de gens connaissant ses qualités, ayant grandi avec lui. Pourtant, ils n'ont pas réussi à dire « La ilaha illallah ». Ils n'ont pas réussi à se prosterner, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla a voulu le bien. Et à l'inverse, des gens venus de Perse comme Salman al-Faris, ou bien des gens d'autres contrées, sont venus et ont accepté l'islam, subhanallah. Falhidayah biyadillah, la guidée entre les mains d'Allah. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui sont d'Afrique noire, d'autres de Russie, d'autres de France, d'autres d'Angleterre, d'autres d'Australie, d'autres même des États-Unis, d'autres même d'Israël, du pays des Juifs. Et ils entrent dans l'islam. Et tu en trouves d'autres qui sont peut-être au sein des meilleurs endroits de l'islam. Mais Allah Azza wa Jalla ne leur a pas accordé la réussite. Donc la guidée entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme doit reconnaître qu'Allah seul l'a comblé de ce bienfait, qui est d'avoir permis à son serviteur de lui obéir. Et c'est là le plus grand bienfait, donc il l'a comblé. Allah nous dit, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Et parmi ces bienfaits, il y a donc l'islam, la soumission, le fait de pouvoir accomplir cette prière. Aussi dans un verset, et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous montre que pour aimer le bien, aimer le din, aimer l'iman, la foi, il faut qu'Allah t'ait accordé cette aide. Sans Allah, tu ne peux pas aimer le bien, aimer vouloir faire le bien. Tu viens pour te rendre à une conférence. Tu appelles les gens à venir à la conférence. Certains n'aiment pas les assises de suite. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a pas mis dans son cœur être tawfiq. Il ne lui a pas fait aimer ce bien. Certains, tu l'appelles à prier à la mosquée. Pour lui, de se tenir debout derrière l'imam, c'est comme s'il marchait sur des braises. Alors qu'il n'a aucune difficulté à être dehors, à perdre son temps. À perdre son temps, et pire encore, dans les discussions futiles, dans les désobéissances, les zonos, la médisance et d'autres choses. Ou devant la télé, avec sa famille, en train de regarder des choses muharram. Mais toi, Allah Azza wa Jal, t'a honoré en te faisant aimer le bien. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur ta personne. Il t'a embelli la foi dans ton cœur. Et avec cela, il t'a fait détester le mal. Le bien seul ne suffit pas. Il t'a fait aussi détester le mal pour que tu puisses observer le chemin de la droiture. Le chemin de la droiture est l'union de ces deux choses-là. Tu aimes le bien, tu le mets en pratique. Tu détestes le mal, tu t'en éloignes. Ainsi, tu pourras observer le chemin de la droiture. Donc les gens de la droiture sont ceux qui ont adoré Allah et obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajoutez la suite de ce verset. Donc ça c'est le verset numéro 7 de Surat al-Hujurat. Ajoutez le verset suivant. Fadlan min Allah wa ni'mah. Fadlan min Allah wa ni'mah. Allah Azza wa Jalla nous dit ensuite que ceci est une faveur d'Allah et un bienfait. Subhanallah. Le fait d'avoir pu aimer le bien et détester le mal, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla surtout. Jusqu'à la fin du verset. Wallahu alimun hakim. Allah est savant et sage. Wa hadha al-mashhad min a'zam al-mashahid. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, cet état est le plus important et le plus salutaire à l'homme. Il varie en fonction de l'aptitude du serviteur à unifier son Seigneur. Plus il l'unifie, son Seigneur, plus il reconnaîtra le bienfait de son Seigneur sur lui-même, jusqu'à ce que celui-ci lui soit complet. Il y a des degrés dans cet état. Plus tu connais Allah, et plus tu l'unifies d'un culte sincère, et plus tu as connaissance de ses noms et ses attributs, plus tu auras de la facilité à reconnaître que tout ce que tu fais, c'est grâce à Allah Azza wa Jalla. Et tu dis le nom Ar-Rabb, et tu dis le nom Al-Karim, et tu dis le nom Ar-Rahim, et tu dis tous ces noms à travers les kutub de Ahl-Sunnah. comme les Ibn Taymiyyah, d'Ibn Qayyim, d'Ibn Sa'di, de Cheikh Abdelrazak al-Abbad, d'Ibn Uthaymin et de bien d'autres, qui ont donné une grande part à cette science. Et plus tu complètes ton tawhid, plus tu ressentiras que tout ce que tu fais, c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait sa grande dépendance devant Allah, alors que c'est A'badun Nas. C'est celui qui adorait le mieux Allah azza wa jalla. Personne ne peut faire ce qu'il faisait. Regardez dans Salat al-Tarawih. Dans Salat al-Tarawih, dans cette mosquée, ils ont récité combien hier? Qui a prié ici? Hein? Ils ont prié combien de Mada, de Ajza? À la base, il prie combien? À la base, il prie un juz, c'est-à-dire 20 pages. Les gens, lorsqu'ils viennent prier 20 pages, ils pensent que c'est long. Hein? 20 pages, wallahi, thumma wallah, c'est pas long. C'est pas long du tout. Et je n'aime pas citer de mes exemples personnels. Mais lorsqu'on était au Yémen, Salat al-Tarawih, yani astahi, j'ai honte de vous citer les nombres de ajza qu'il y avait dans la salat durant Ramadan et ensuite durant les 10 dernières nuits. Car je ne fais pas partie des gens de ce que c'est ici Ibn al-Qayyim. Mais wallah, que je voyais devant moi des personnes âgées et je me posais la question, comment est-ce qu'il arrive à tenir? Wallahi, thumma wallah, que je n'ai pas réussi à tenir plusieurs nuits du début à la fin. Et je voyais des personnes âgées qui tenaient. Des fois, ça durait environ 8 hizb. 8 hizb, ikhwan, 8 hizb. Ou un roub' du Coran, presque. Un jour, il y avait cours. Et personne n'avait vu les signes de Laylatul Qadr. Le shir est monté sur le kursi pour faire le cours. Car il y avait cours, même pendant Ramadan, même le soir. Hein? Puis, il a demandé qui a vu les alamats de Laylatul Qadr. Personne ne les avait vus. Et c'était la nuit du 29. Ça y est. Ou plutôt avant ça, peut-être la nuit du 25. De après l'Isha, jusque proche du Fajr, en salat. Après l'Isha, et c'est pas les heures de France. Le Mada l'Isha est tôt. Ça y est. Yani, par exemple, de 20h jusqu'à 4h du matin. Ça y est. Des raka'at, non, comme la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, 11 raka'at. Pas après l'Isha un peu, même si certains pensent que c'est beaucoup, et à 2h du matin, un tout petit peu, même si certaines personnes pensent que c'est beaucoup. Le temps d'une raka'a, isma'ou, le temps d'une raka'a qu'on faisait, c'est plus long que tout le tarawih. Plus le tahajjud. Mafhoum ? Le temps d'une raka'a était plus long que tout le tarawih que vous voyez en France. Plus le qiyam du matin. Au point où certains frères se sont plaints au shir, ont dit on ne tient pas. C'était trop difficile. Alors le shir a khaffaf. J'ai plus de bien, il y a de bons souvenirs, mais par exemple, il avait resté, mathalan, 14, maza, ahzab, tayyib, et il a diminué un peu. Tayyib. Et c'est pas une récitation bi'ajala, c'est une bonne récitation. Avec khushu, avec, tu médites le Qur'an et ainsi de suite. Et talabatul ilm, ceux qui étudient doivent être ainsi. Ils doivent être ainsi. Maintenant, si tu présides la prière et qu'il y a des awam, khassif, allez-y. Hein? Mais talabatul ilm doivent être connus pour être ta'abbud. Pas comme on voit. Être durous, être durous, être durous, être durous. Qira'a, qira'a, hib. Et ensuite, il rate la prière du fajr. Là, ya akhi. Allah, une qissa bouleversante. Une personne âgée est venue voir Cheikh Abdelrazak al-Abbad. Il raconte lui-même l'histoire. Il dit, il est venu me voir et m'a dit, Ya Cheikh, ana wallahi ma ahfad illa al-fatiha wa kul huwallahu ahad. Une personne âgée qui a dit, Ya Cheikh, moi je connais que kul huwallahu ahad. Al-fatiha kul huwallahu ahad. Mais toutes les nuits je prie 2 heures. Mais je récite à plusieurs reprises qul wallahu ahad. Et ensuite il a pleuré. Il a dit à Cheikh sa face, inna lillahi wa inna raji'un. Haoula amalu bi'ilmihim. Ces gens-là, ils ont appliqué leur science. Al-Salaf disait, on a eu l'iman, on a eu l'iman sahih. Ensuite, le Coran est descendu. Fazdadna iman. Ils apprenaient le Coran, 10 versets, avec un tafsir. Et ils mettaient en pratique. Quand ils lisaient le Coran, c'était avec méditation. Lorsqu'il y avait un ordre, ils regardaient, est-ce que moi je fais cette chose ou pas? Ils ne dépassaient pas. Ils pleuraient à l'écoute du Coran. Certains tombaient malades, comme Omar ibn Khattab. Certains n'arrivaient plus à réciter, comme Abdullah ibn Omar. Et nous, où sommes-nous devant les textes du Coran? Subhanallah. Atharul Coran, c'est muhim jiddan. Particulièrement chez un tabi'in, quelqu'un qui étudie. Amma tahfad, 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 tajlis, taqra, taktub. Et tatakathar. Alhaakum al-takathur. Juste pour dire que tu connais le Coran et tu assis en magasin seulement. C'est pas comme ça qu'étaient les salafs. Chez les Sahaba, beaucoup ne connaissaient pas le Coran. Certains avaient peu de Coran. Mais ils appliquaient. C'est ça la grande différence. Ils apprenaient pour adorer Allah Azza wa Jal. C'est ainsi que nous devons être. Amma, aujourd'hui, tu trouves une femme qui connaît le Coran. Et ensuite, lorsque son mari l'appelle, elle lui dit, je suis occupée. Hadi ma tahfadhu al-Quran. Et ensuite, elle élève la voix sur son mari. Ensuite, elle demande le talak pour un oui ou pour un non. Hadi ma tahfadhu al-Quran. Wa rabbi al-ka'b. Où tu trouves un homme qui est au saf al-awwal et qui se fait beau avec son qamis. Wa yuzahim al-nas fi majalis ahli al-ilm. Wa talabat al-ilm. Il est dans les assises. Et lorsque tu le vois, tu dirais, j'aimerais avoir un gendre comme ça ou un fils comme ça. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il insulte son épouse. Il ne dépense pas pour sa famille. Il n'en prend rien à sa famille. Il n'a pas de piété envers ses parents. Ou il rompt les liens de parenté. Hada talbi'in. Hada talbi'in al-aq. Liwalidayhi. Hada fasiq. Ça, c'est un pervers dans l'islam. C'est un sahib kabira. Même si tu le vois, ça fait l'awwal. Même si tu le vois, ça fait l'awwal. Et qui connaît le Coran par cœur. Al-Muttaqi, c'est celui qui apprend, connaît et met en pratique sa science. C'est pas avec yani la plus grande place dans l'ilm et être connu chez les gens en bien. Qu'est-ce qu'Allah connaît de toi? C'est ça qui compte. C'est quoi la place que tu as auprès d'Allah Azza wa Jal? Amma qu'un tel dit Masha'Allah, Fulan, Masha'Allah, Fulan. Eshenfa'ut, Fulan, Maldakhiluk al-Jannah, Maldakhiluk al-Jannah. Un tel ne peut te faire entrer au paradis. Un tel ne peut te faire sortir de l'enfer si Allah te met en enfer. Raqibu Rabb al-Alamin. Efforcez-vous de ressentir qu'Allah vous surveille. Efforcez-vous d'avoir l'ikhlas. Wa sidq ma Allah. Si tu es véridique avec Allah, wallah, et tu prends le mushaf. Taqra al-mushaf, taqra sura, une seule sourate, tajlis fil masjid. Tu ressors avec un état du cœur que tu ne trouves pas peut-être dans un tarawih entier. Parce que là tu étais véridique, tu étais avec Allah Azza wa Jalla. Tu ressentais que c'était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, après, tu pourras te lever dans la salat et réciter un hizb, deux hizb, cinq hizb, dix hizb dans une nuit. Et ensuite, à l'arrivée du fajr, tu vas être triste parce que tu étais bien, tu étais avec Allah Azza wa Jal, et personne ne te voyait. Et ensuite, tu arrives le matin et personne ne sait que tu as passé cette nuit en prière. Subhanallah. Seul Allah Azza wa Jal t'a vu. Et yom al-qiyama, lorsque tu arrives, tes voisins se disaient « Ah, t'as mal salli kathira ». Tes voisins pensaient qu'ils allaient être au-dessus de toi. Et ils te voient les dépasser en degré fil jannah. Ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyakum hadha ar-rajul. Qu'Allah fasse de nous des gens sincères. C'est comme cela que nous devons être. Chercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et ressentir qu'il n'y a que Allah azza wa jalla qui peut nous aider. Un des anciens était âgé, mais il avait une grande force. Les jeunes lui ont dit, comment est-ce que tu arrives à avoir cette force à ton âge? Il leur a dit, vous voyez mes enfants, ces membres-là, je les ai préservés dans l'adoration d'Allah quand j'étais jeune. Alors maintenant que je suis vieux, Allah me les préserve. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu. C'est-à-dire, préserve les limites d'Allah, il te préservera. Dans ta famille, dans ton argent, dans tes biens, dans tes épouses, dans ta piété, dans ta santé. Tu verras qu'Allah Azza wa Jal te préservera. Derrière l'imam, c'est qui que tu trouves? Du fait qu'ils ne sont pas là, je les cite. Tu trouves deux personnes âgées parmi nos pères maghrébins. Jamais je ne suis venu au masjid, si ce n'est très peu, sans que je les ai trouvés avant, alors que je suis l'imam. dans les actions surrogatoires, je n'arrive pas à les dépasser. Sauf l'awwal. L'un d'entre eux, je cite cela car il est absent. Wallahi que je le vois retirer de l'argent et donner de l'argent à des gens. Alors que ça ne sont pas ses enfants. Et lorsque l'un d'eux refuse, il les engueule et dit tu l'es comme mon fils. Sadaqat, ils sont présents. Qiyamul layl, ils sont présents. Qira'atul Qur'an, ils sont présents. Même minna yabqa bayna al-maghrib wa al-isha. Qui d'entre nous reste entre le maghrib et l'isha? Masikan al-mushaf kitab rabbina azza wa jal. Avec le livre de notre Seigneur entre les mains. Qui d'entre nous? Qui d'entre nous apprend, lit, comprend et met en pratique, puis rentre chez lui transmettre à sa famille? Même minna. Alors qu'on ne s'étonne pas de voir la difficulté que vivent les musulmans au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils se sont éloignés du chemin sur lequel étaient les pieux prédécesseurs. Chacun ramène une nouvelle voie, chacun appelle à son parti, chacun appelle à son chir, au lieu d'appeler à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'appeler les gens au Jannah. Ressens que tout ce que tu fais comme bonne action, c'est l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les grands bienfaits du fait de ressentir que tout ce que tu fais c'est grâce à Allah, il y a le fait que c'est un rempart pour le cœur face à l'éventualité d'être émerveillé par sa bonne action ou sa propre personne. Si tu ressens que tout ce que tu fais c'est grâce à Allah, tu ne seras jamais étonné de ta propre personne en pensant que tu es meilleur que tout le monde et que c'est grâce à toi. Al-ujb, tu peux t'en préserver par trois choses. Mu'alajatul ujb bi thalathati umur. Awwalan bima dhakara al-imam huna. Tu te préserves du ujb par trois choses. Premièrement, ce qu'a cité ici l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est mushahadatul minna. Ressentir que tout ce que tu as fait, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à Allah. C'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui t'a donné la force, la volonté et l'amour du bien. Deuxièmement, cette action que tu as faite, elle n'est pas parfaite, il y a des manquements. Donc tu te dis, subhanallah, j'ai fait des efforts, mais je n'ai pas fait parfaitement. Troisièmement, mushahadat dhunubik. Tu te rappelles de tes manquements et de tes péchés. Combien de péchés t'as fait? T'as fait cette bonne action, certes. T'as prié peut-être toute une nuit en prière, certes. Mais combien de péchés avant cela tu as fait? Quand tu réunis ces choses-là, wallah, tu n'arrives même pas à t'étonner devant un ami. Devant une personne de la masse. Devant une personne de la masse, tastahi, tu as honte et tu respectes les autres. Pas comme les débutants dans le din. Il a un an dans le din, cinq ans dans le din. Et ensuite tu l'entends, il insulte les ulama de l'islam. Hein? Ou il néglige les frères, les du'at. Ah là, je suis parti à sa muhadara. Ah, c'est pas terrible. Hada kada, hada, ça fait cinq fois qu'il fait le usul salata. Hada kada, tayyib. Hada comme tu l'appelles. Au moment où il a enseigné aux gens le sens de la ilaha illallah, il y a 20 ans, il y a 15 ans, tu ne faisais même pas la salat. Tu ne connaissais même pas le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, parce que Allah t'a donné un peu d'éloquence et que tu es connu, tu penses que tu es meilleur que ces gens-là. Peut-être que ces gens-là ont fait une bonne action il y a de cela 20 ans. Et qu'Allah azza wa jalla a dit, entre au paradis, je t'écris mon agrément jusqu'à yawm al-qiyamah. Et peut-être que toi, Allah t'a vu dans un péché et qu'il a dit, fais tout ce que tu veux, mais je suis en colère contre toi jusqu'à ma rencontre. Comment est-ce que tu peux t'enorgueillir devant des gens de la da'wah, ou bien des ulama, ou bien des talabat al-ilm? La ya'akh, tawadha. Parmi les fawa'id de cela, et tawadha. Et tawadha, wallahi, certains de nos profs, presque personne ne les connaît. Presque personne ne les connaît. On fait largement plus de cours qu'eux. On est bien plus connus qu'eux. On a bien plus d'audio qu'eux. Mais wallahi, que ce qu'on pense, c'est qu'on n'a pas la moitié de leur niveau. Lorsque nous sommes entrés dans le dîner, ils étaient en train d'étudier, ils étaient au masjid. Ils avaient déjà l'arabe. Subhanallah. Au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes sur les manabes. Et eux sont toujours dans la science. Vous pensez qu'on est meilleur qu'eux? Vous pensez qu'on est meilleur qu'eux? Ou la mère qui t'a allaité et qui faisait la salade bien avant toi et qui peut-être ne sait pas parler l'arabe. Et lorsque tu rentres, tu penses qu'elle est meilleure que toi. Mais cette femme, elle n'a pas connu d'autre homme si ce n'est ton père. Cette femme, elle se lève à 5h du matin pour préparer à manger pour ton père. Elle fait ses salawat alayh. Elle ne sort pas de... C'est une amniya. Elle a l'aqidah. Elle a une aqidah sahiha. Et toi, t'as un passé peut-être.
Et maintenant tu as connu le dîn, et du jour au lendemain tu penses que tu es meilleur qu'elle. Ou que ton père, tu dis, hada miskin, ma ya'arif. Hein? Tawada ya Abdallah, sois humble. Sache ta position, sache ta valeur. Kunta qatara. Fisul bi abik. Tu n'étais qu'une goutte dans les lombes de ton père, tu es une goutte de sperme. Qutil al-insan ma akfar. Min ayy shay'in khalaqa? Min nutfa. Tu as été créé d'une goutte. Comment est-ce que tu peux t'enorgueillir au jour d'aujourd'hui? Allah Azza wa Jal t'interpelle par cela dans le Coran. Donc demain, lorsque tu seras sur le minbar, demain lorsque tu feras les cours, demain lorsque tout le monde viendra à toi car ils connaissent que tes bonnes qualités, ignorent tes défauts, rappelle-toi tout cela. Rappelle-toi les conseils d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Et dis-le, Wallahi, law ta'lamuna dhunubi ma wa'ti aqib ithnayn. Dis-le comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, Wallahi, si vous saviez mes péchés, il n'y aurait pas deux personnes à marcher derrière moi. Ibn Mas'ud nous dit ça. Allamatul Qur'an, inda sahara. Qu'est-ce que nous allons dire nous? Mais nous sommes à une époque où chaque personne pense être le meilleur, le plus pieux. Même s'il ne le dit pas avec sa langue, il le pense dans son fort intérieur. Astaghfirullah wa atubu ilayh. فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شرع له شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس ويرفع به قلب ويرفع من قلبه فلا يعجب به ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به وهذا شأن العمل المرفوع. ابن القيم رحمه الله تعالى مدي en reconnaissant que c'est Allah qui l'a comblé de ce bienfait, et c'est lui qui lui a permis de l'accomplir, et l'a guidé, et l'y a guidé, cela éloigne son esprit de considérer que le mérite lui revient en cela. Tu ne mérites rien, c'est Allah qui t'a aidé. Et d'être émerveillé par sa bonne action. Tout comme cela épargne sa langue d'avoir à s'en vanter et d'exagérer en ce sens. Il fait des actions, personne ne l'a vu. Au lieu de garder cela entre lui et Allah, il vient et dit « Subhanallah, je suis fatigué, cette nuit j'ai prié, je me suis levé et j'ai prié tant. Subhanallah, aujourd'hui je jeûne. Ah, si je jeûnerais pas, j'aurais bien envie de manger telle chose. » Ou bien il te parle pour te faire comprendre qu'il a fait telle action et telle action. Hein? Ou il baille et dit « Subhanallah, faut que je prie moi. » Ou bien « Kada » ou bien « Kada » Subhanallah. Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Une blague qu'il raconte, c'est qu'un homme, dans Madha, un livre d'Ibn Hibban, si mes souvenirs sont bons, fait ça sur le Hamqa, hein, les histoires des idiots. C'est que des histoires vraies. Hein? Vous avez entendu parler de ce livre? C'est que des histoires vraies. Taïb. Une expression communément citée au jour d'aujourd'hui, mais je ne la cite pas car nous sommes dans la mosquée pour que l'assise maintienne sa Madha splendeur, inshallah ta'ala. Mais vous savez très bien que les idiots font des idioties. Donc la personne était en salat. Et il y avait des gens derrière lui et un parlait et vantait ses mérites. Il dit, Masha'Allah, il est salih, hadal imam, il est pieux. Hein? Et yahfad kaza, il connaît ça, il connaît ça. Et il s'est retourné, il a dit, wa ma'adhal, il sa'il. Il s'est retourné, il a dit, et je jeûne aujourd'hui. Hein? Et allez, il cite son amen. Taïb. Il a dit, ce que tu ne sais pas, c'est que je jeûne en plus. Yani, Allah al-musta'an. Taïb. Donc la personne, elle ne va pas voir les gens et dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Hein? Et il ne faut pas confondre avec le fait de faire la bonne action, de citer la bonne action pour encourager les autres. Ça, c'est bien. Hein? Tu viens et tu fais une sadaqa en public. Pourquoi? Pour que yuktadabi. Pour qu'on prenne un exemple et on le fasse. Ça, les sahabas l'ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. D'accord? Donc le cœur, s'il est occupé à se rappeler que Allah lui a facilité ça, c'est grâce à Allah, sans Allah je n'aurais pas fait, ben il n'y a plus de place pour se vanter de son action. ومن فوائد أنه يضيف أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهد كل له لله كما يشهد النعمة كله منه والفضل كله له والخير كله في يديه وهذا من تمام التوحيد فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم بعلم ذلك وشهوده فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا فإذا صار لقلبي مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقاه والتنعم بذكره وطاعته ولا أشمى لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة سبحان الله من يفهم اللغة العربية يتأثر بمثل هذه الكلمات Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous cite encore d'autres mérites de sentir que tout ce que nous faisons c'est grâce à Allah. Parmi ces avantages, cela permet d'accorder la louange à son maître qui le mérite. Tu sais que c'est Allah qui t'a aidé, donc tu dis Alhamdulillah. Tu sais que c'est pas grâce à toi, alors tu vas être un serviteur reconnaissant. Tu vas proclamer la perfection d'Allah Azza wa Jal en citant ses caractéristiques. Quand tu dis Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Tu dois apprendre ses sens. Subhanallah, ça veut dire quoi? Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Hein? La nuit du Eid, jusqu'à la venue de l'imam, la sunnah, takbir. Mais que veut dire le takbir? Hein? Tu dois apprendre ses sens. Donc lorsque tu dis Alhamdulillah, ça veut dire Wasful Mahmoudi bil Kamal, ma mahabbatin wa ta'zim. Quand tu dis Alhamdulillah, Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ya Allah, je te décris et je parle de toi en citant tes attributs de perfection. Avec amour et immensification. C'est ça que ça veut dire, Alhamdulillah. Tu dis, Ya Allah, tu es parfait, Ya Allah, kada, Ya Allah. Et quand tu dis ça, ton cœur est rempli d'amour et d'immensification pour le maître des cieux et de la terre, Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est à lui que revient le droit, la louange. Par conséquent, l'homme ne se considère pas digne d'éloge. Quand les gens viennent, tu dis, c'est grâce à toi, tu as fait ça, mashallah, sans toi, kada. Tu dis, non, hada Allah. Ça, c'est grâce à Allah. Sans Allah, on n'aurait pas réussi ça. Sans Allah, on n'aurait pas réussi ça. Les gens ne sont que des causes. Les gens ne sont que des causes. Wallahi, même l'imam, par la cause que par laquelle tu es, yani par laquelle tu es entré dans l'islam, ne dit pas c'est cet imam. Dis c'est Allah qui a aidé cet imam. Alors, il a trouvé les mots. Wahakada. Tout bienfait qui te parvient, sache que c'est Allah. C'est Allah. Et les gens ne sont que des causes. Ainsi tu rattacheras ton cœur qu'au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Tout le bien est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il voit plutôt que cette louange ne revient de droit qu'à Allah, comme il reconnaît que chaque bienfait vient de lui, que tous les mérites lui reviennent et que le bienfait est dans sa main. Et cela compte la plus parfaite forme d'unicité. Savoir et reconnaître ce qui vient d'être évoqué est la seule façon pour l'homme de voir son cœur se stabiliser dans la demeure de l'unicité. Tant que tu n'auras pas présent dans ton cœur que tout ce qui se passe c'est grâce à Allah, tous les bienfaits qui te touchent c'est que le bienfait d'Allah, jamais ton cœur sera tranquillisé par la foi et par la ilaha illallah et l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une fois que cette connaissance est ancrée en sa personne, il peut témoigner de cet état. Et lorsque son cœur en témoigne, écoutez les paroles d'Ibn Qayyim, lorsque son cœur en témoigne, cela engendre chez lui un amour, un sentiment d'intimité avec son Seigneur, le désir ardent de le rencontrer, de se délecter du bienfait de son évocation et de son obéissance. Allahu Akbar. Quand tu atteins ce niveau-là, Allah Azza wa Jal est pleinement dans ton cœur. Alors tu goûtes au plus grand bonheur dans ce monde. Ton amour se décuple pour lui. Alors tu trouves ton plus grand bonheur dans son invocation, dans ta salat, dans le dua, dans la lecture du Coran. Alors cette dunya n'a plus aucune valeur à tes yeux. Cette dunya n'a plus aucune importance. Et tu aimes cette dunya que parce que elle te donne du temps qui te permet d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu es pressé de revenir vers Allah azza wa jal car tu as bien agi, tu veux ta récompense. Voir Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka shawqa ila liqa'ik wa ladhata an-nazar ila wajhika al-karim. وما للمرء خير من حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا وما للمرء خير من حي... في حياته إذا كان قلبه عن هذا مسدودا أي ماذا هذه الحالة هذا ما عنده خير وطريق الوصول إليه عنه مسدودا بل هو كما قال تعالى ذرهم يأكلون أو ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون ابن القيم رحمه الله تعالى فيني le cinquième point en disant et l'homme ne connaît aucun bien dans sa vie si on empêche son cœur de goûter à ça celui qui n'a pas goûté à ça le fait de ressentir qu'Allah Azza wa Jal est le seul à lui donner tout le bonheur que tout ce qu'il arrive à faire c'est grâce à Allah et que sans Allah il n'aurait réussi à rien celui qui n'a pas goûté à tous ses sens celui qui n'a pas goûté au tawhid ben il n'a jamais été heureux dans ce bas monde il n'a jamais goûté au plaisir dans ce bas monde il n'a connu aucun bien dans sa vie et si le chemin menant à son cœur est obscur il n'aura jamais goûté au bonheur dans ce bas monde mais il serait comme Allah le dit dans ce verset laisse-les manger jouir c'est-à-dire un certain temps et être distrait par l'espoir car bientôt ils sauront ils sauront quoi qu'ils étaient égarés dans ce bas monde ils sauront que c'était une erreur tolul amal de se voir une longue espérance de vie et de passer tout leur temps dans la dunya les gens vivent sont distraits sont dans l'injustice dans le délaissement des adorations de l'apprentissage de la science et de ce qui leur apporte du bien dans l'au-delà ils font de longs projets je vais construire telle maison je vais faire telle chose et ensuite pour les meilleurs d'entre eux ils se disent je ferai tawbah et j'irai au hajj quand je serai venu que se passe-t-il et c'est alors que tu entends Fulamat rahimahullah t'entends un tel est mort un tel est parti dormir il ne s'est jamais réveillé un tel a fait un accident un tel kaza c'est la salade des nazas de un tel dans telle mosquée tel jour à telle heure subhanallah et ensuite on l'enterre et ensuite on prie sur lui et il se réveille au Malqiyam et il se dit j'étais dans l'erreur j'ai pas construit mon paradis qu'est-ce que je vais dire à Allah wa hakaza et c'est trop tard tolul amal na'ouzu billah min dhalik il arrive au Malqiyam ma lahu zad il a pas de mada de provision hein Abu Darda radiallahu anhu hada al-amil al-da'i Au moment de mourir, il pleurait énormément. Aïcha, la même chose. Abu Huraira, la même chose. Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, radiallahu anhu, le plus grand rapporteur de hadith de l'islam. Au moment de mourir, il pleure. On lui dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Tu étais le compagnon du prophète sallam. Tu étais un tel. Il dit, parce que le voyage est long. Et mes provisions sont très peu. Abu Huraira qui dit ça, ya ikhwani. Qu'est-ce que nous allons dire nous? Aïcha radiallahu anha, elle pleure, l'épouse préférée du prophète sallam. La femme au sujet duquel le prophète sallam, lorsqu'on lui a dit, qui est-ce que tu aimes le plus au monde, il n'avait pas eu peur de dire, Aïcha, la ilaha illallah, celle sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, celle qui, wallah, elle mérite une khutba radiallahu anha. من خطبة باسمها عائشة أمنا رضي الله عنها وقبح الله الرافضة الذين تكلمون في أمنا cette femme pleurait au moment de mourir on lui dit toi tu pleures dans cet état elle a peur de la rencontre avec Allah elle voit qu'elle n'a pas bien agi elle voit qu'elle n'a pas assez d'action Abu Darda il pleure il dit le voyage est long et je n'ai pas assez fait j'ai peur qu'on me dise ya Abu Darda alimta fa kayfa amilt Abu Darda dit j'ai peur qu'on me dise demain oh Abu Darda tu avais de la science mais qu'est-ce que tu as mis en pratique qu'est-ce que tu as fait avec cette science kadhalika kanu ya ikhwan c'est ainsi qu'ils étaient ces assises si vous venez parce que vous n'avez rien à faire ou parce que vous voulez oublier la faim wallah vous avez perdu votre temps dans cette assise dans ces assises il faut qu'on soigne notre cœur dans cette assise Tu dois voir ton paradis. Rawdatul miraj al-jannah. Dans cette assise, tu dois prendre tes provisions pour la rencontre avec Allah. C'est pas un jeu. Tu construis ton jannah, tu construis ton paradis. Tu vas rester debout, yawm al-qiyamah, un jour qui sera égal à combien? À 1000 ans, 50 000 ans? Il y aura le soleil aussi des toits, et Allah Azza wa Jal va venir pour juger les faces, les bayna nas, les faces, les qadha. Waji'a bi jahannam, l'enfer va être amené. Elle aura 70 000 chaînes, pour chaque chaîne, 70 000 anges. Yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin, yawmin 'azim. Un jour immense, un jour terrible. Les cheveux des enfants blanchiront, ils auront peur. C'est pour ce jour-là, limite li hadha faly'amal al-'amilun. C'est pour ce jour-là qu'on doit se préparer. Tu viens dans cette assise, tu dis Qadis ibn al-Qayyim, telle parole. Est-ce que moi j'ai ce défaut ou pas? Tu te corriges. Il appelle à une bonne chose, tu te regardes, tu te corriges. Tu ressors de la mosquée bouleversé par ce cours, changé par ce cours. Avant de sortir de la mosquée, tu fais tawba wa tsahih qalbak wa niyyatak wa qasdak. Tu te corriges, tu corriges ton cœur, ton intention. Et tu sors, abdan salihan, taqiyan, naqiyan. Tu ressors et tu es un serviteur changé, pieux. Et tu recherches Allah Azza wa Jalla wa dar al-akhirah. Et tu excelles dans la fin de ces jours de Ramadan. Les gens pensent qu'après le 27, on relâche les efforts. La ya wallah. Il y a un grand rappel, une grande faïda. À la fin de Ramadan, on nous a légiféré dans déjà les 10 jours. Faire des efforts dans les 10 jours. Ensuite, on nous a légiféré Laylatul Qadr dans les efforts dans les nuits impaires. Ensuite, on nous légifère des adorations à la fin. Ibn Rajab dit une grande faïda dans ça. Ou un autre. Il dit on nous éduque à Husnul Khatima. À toujours parfaire la fin, comme on doit parfaire notre vie. Faire des efforts pour avoir une bonne fin. Là, il reste combien de jours au maximum? Hein? 3 jours. Accomplis ces 3 jours comme si tu allais mourir. Après ces 3 jours. Sallu salatan wadda. 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 Non. Le professeur Sallam a fait une nasiha une fois, a dit prier comme si c'est votre dernière prière. Fais comme si l'ange de la mort était à ta porte, chaque jour. Et tu verras comment tu vas agir avec Ihsan. Tu vas agir avec Ihsan, un des salafs, a fait creuser une tombe chez lui. Et il rentrait dans cette tombe. Et ensuite il disait Rabbi irji'un, la'alli a'mal salihan fima tarakt. Hein? Il ressortait pour agir comme s'il avait eu l'occasion d'adorer Allah Azza wa Jalla après la mort. Mais viendra un jour où tu ne pourras plus revenir. Mes frères, c'est quelques efforts, c'est quelques paroles. C'est pour qu'on ne regrette pas Yawm al-Qiyamah, le jour où les gens regretteront. C'est pour qu'on ne fasse pas partie des gens de la grande perte, les jours où les gens perdront. Yawm al-Tarabun. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula. An yuwafiqana ila kulli khayr. Wa an yahdiyana ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana atina fi dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلواتنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام حرم وجوهنا إلى النار اللهم اعتقنا من النار اللهم احفظنا من النار اللهم ادخلنا الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمي اللهم ارحم أمي اللهم ارحم أمي اللهم اسعدها في قبرها اللهم اسعدها في قبرها اللهم اسعدها في قبرها وعنا على البر بعد مماتها كما عنتنا على البر في حياتها وارفع درجاتها في الجنة يا رب العالمين وصل اللهم بارك على نبينا محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بتتم الصالحات جزاكم الله خير